Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission proposée par Guy Bruy. Nous recevons aujourd'hui Michel Blais, membre de l'Union rationaliste, secrétaire de la Revue d'Histoire des Sciences, directeur de recherche au CNRS, auteur de « L'homme sans repos » en 2002 et de « La science trahie » en 2003. Il a publié l'an dernier « Les clôtures de la modernité ». Ces trois livres ont été édités chez Armand Collin. Et c'est du dernier d'entre eux que nous allons partir pour un trop bref entretien. Modernité, merdonité. Reprendriez-vous à votre compte ce jeu de mots de Michel Léris ? À vous lire, c'est un peu le sentiment qu'on a.
Oui, mais je ne porterai pas un jugement de valeur aussi dur. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que la modernité doit être comprise, et après, on porte un jugement de valeur. Et puis, quant à parler de la modernité, là, on a le sentiment que c'est la modernité en soi qui est critiquée, alors que peut-être nous sommes déjà, disons, dans une autre modernité que celle dont parlait Michel Léris. Donc je serai plus nuancé, même si j'ai des humeurs à l'égard de la modernité.
Partant du projet de Galilée de, je vous cite, « reconstruire les phénomènes de la nature à l'intérieur du domaine de l'intelligibilité mathématique », vous opposez la théoria, qui vise la connaissance et la vérité, et le développement des techniques. Le projet galiléen, dites-vous, s'abîme dans la création des écoles modernes d'artillerie. L'aboutissement de cela, c'est pour vous la guerre de 14. Alors, la science et la connaissance, pourquoi faire ?
Oui, ça c'est une bonne question, mais je ne serai pas aussi brutal dans l'opposition science-technique, surtout telle qu'elle s'est constituée au XVIIe siècle. La science se constitue comme visée de connaissance et de vérité, mais à travers sa mathématisation de la nature, elle engage immédiatement un processus technique. Et par rapport à ce que vous venez de dire, le processus technique est tel que des champs entiers de la technique s'autonomisent et perdent leurs racines de science proprement dite. Alors, la science galiléenne s'abîme effectivement dans l'artillerie, qui se constitue en champ autonome, et l'aboutissement à la guerre de 14, il ne faut pas lier trop les deux, parce qu'on a le sentiment que c'est la science qui conduit à la guerre de 14. Pas du tout. C'est le fait que la technique, une fois autonomisée, peut devenir une vision du monde. Et c'est au moment où elle devient une vision du monde, ce qu'elle est à partir du 19e siècle, au début du 20e siècle, où elle est une fin en soi, que l'on perd le sens de la connaissance et que cette technique devient, disons, un danger pour l'humanité en tant que telle. Non pas la technique, mais l'idée et l'usage que l'on en fait en tant que vision du monde réductrice de la science elle-même.
Bien sûr, ma question était un peu provocatrice, comme vous l'aviez senti. Bon, il n'en reste pas moins que votre livre insiste tout de même sur ce danger que nous courons d'être dévorés par des techniques qui peuvent être une mode aussi.
Oui, mais les techniques, je pense qu'elles n'engagent rien a priori. Et je pense que c'est ce qu'on en fait et la manière dont on les pense. Et ce qu'il faut surtout bien avoir en tête, c'est que par rapport à la science, la technique n'est toujours qu'un produit de cette science, que le résultat de cette science. L'important, c'est toujours la visée de connaissance, questionnement incessant de la nature, de l'humanité, questionnement incessant, dont l'un des produits, lorsqu'il y a mathématisation, est la technique. Mais ce n'est qu'un produit. Il ne faut pas le comprendre comme une fin. On ne fait pas de la science pour de la technique, on fait de la science et il y a de la technique qui arrive. Parce que si on fait de la science pour de la technique, c'est la technique qui devient la fin. Et c'est là où nous sommes actuellement. Et on est dans cette fameuse technoscience qui, à mon avis, n'existe pas. Si on parle de technoscience, c'est qu'on oublie qu'il y a la science avant. Il y a toujours une visée de connaissance. On ne travaille pas en physique aujourd'hui sans avoir l'idée de connaître d'abord et des applications arrivent après, comme on disait autrefois.
Oui, et la jubilation des techniques qui s'emparent de certains conduit, je crois que vous le dites, à une destruction de la pensée, du plaisir de penser. Alors, il y a une chose que vous semblez ne pas aimer, c'est la vitesse. Et vous écrivez, la vitesse devient un enjeu et le sens de l'existence semble se bâtir dans la course. de telle sorte que disparaît le simple plaisir de passer le temps. Alors peut-être souhaitez-vous nous ramener un peu de sagesse, par exemple celle de Montaigne, qui répondait à qui lui reprochait de n'avoir rien fait de sa journée. « Et quoi ? N'ai-je pas vécu ?»
C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous vivons.
Absolument.
Mais ce que veut dire cette phrase de façon très précise, c'est que pendant un certain temps, pendant la journée où j'ai vécu, j'ai été à moi, je me suis appartenu, j'ai pensé, et en pensant pendant que je suis à moi, j'exerce, disons, ma critique. Et ce temps de la tranquillité, ce temps de la pensée est à mon avis essentiel. Il n'y a pas de tranquillité et de liberté de pensée sans un peu d'oisiveté. Descartes le savait. Et ce que je crois, c'est que la vitesse qui est derrière notre vie actuellement, qui devient pratiquement une métaphysique de notre vie, est profondément totalitaire. Parce que plus nous allons vite, moins nous avons du temps libre pour la pensée et pour l'exercice critique. Or, n'y a-t-il pas, disons, d'activité plus importante que l'exercice de la pensée critique? C'est bien ce que fait Montaigne dans sa librairie et que nous faisons, pratiquons en ce moment. Nous essayons de le faire un peu en ce moment, en prenant un peu de temps de tranquillité. Nous restons très tranquilles ici et nous parlons, je dirais pas dans l'oisiveté, mais dans le regard vers nous-mêmes, ce qui est quand même ce qui me semble essentiel.
Nous prenons un peu de temps sur quantité d'activité fébrile.
Et souvent très inutile.
Ah oui.
Plus on va vite, moins on fait. Et plus on fait mal.
Donc sachons prendre notre temps, ne pas nous presser.
Oui, c'est un retour vers la sagesse.
Voilà. Mais... Alors dans votre argumentation, ce qui m'a beaucoup intéressé, sans doute à partir de ma formation, c'est que vous accordez une très grande place aux peintres, aux poètes, aux artistes en général, mais vous insistez sur les peintres et les poètes, qui apparaissent à travers ce que vous écrivez comme des, je dirais, des capteurs de réalité ou, comme disait Éluard, des frères voyants. Il semble donc pour vous que la poésie et la peinture soient des voies d'accès à la saisie et à la connaissance du monde, des voies d'accès parmi d'autres.
Oui, je le crois. Et je suis même à peu près certain qu'il est plus important de lire les poètes, de regarder les peintres ou les romanciers, plutôt que de s'attacher aux études sociologiques qui, elles, apportent un savoir cumulatif sur la longue durée. Alors que, disons, dans le cas de la lecture des poètes, des écrivains, on est dans la prise de conscience immédiate de l'ici et du maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on a, c'est ce qui est dit, ce qui est vécu par le poète et le peintre, vécu de l'intérieur, dans la chair même de l'époque dont il parle. Et donc, il perçoit parfaitement les changements qui s'effectuent. Et donc, on a un autre regard que celui déjà critique d'un sociologue. On est exactement dans le présent même de ce qui est vécu. Et je pense que c'est ça qui donne, disons, ce n'est pas nécessairement être voyant, c'est saisir l'ici et le maintenant, disons, dans leur plénitude.
Alors, le saisir et le montrer.
Le saisir et le montrer, effectivement. Et le talent consiste à le montrer. À le montrer, dans, disons, avec le plus de pertinence possible et de, disons, de richesse technique pour le peintre ou pour le poète. Mais c'est cet instant qui peut être dit et qui ne peut être dit que par un artiste, d'un certain point de vue. Et c'est en ce sens que je trouve très important et tout à fait essentiel pour comprendre une époque de livre. Il ne faut pas en lire qu'un, il faut en lire beaucoup. Il faut en lire beaucoup, je dirais en croiser beaucoup. Et là, on a comme quelque chose de l'époque qui surgit devant vous avec une force. Je parle aussi de poètes de qualité et d'écrivains de qualité, c'est-à-dire pas des écrivains un peu trop nombrilistes, mais des gens qui pensent un petit peu le monde en même temps et qui essayent de le saisir dans sa présence.
Oui, alors justement, vous vous attardez... en partie pour des raisons personnelles et biographiques, mais ça n'est pas la question, à la guerre de 14, et justement au rapport d'un certain nombre de poètes et de peintres à la fascination qu'ils éprouvent pour la mécanisation. Et on a l'impression, à vous lire, qu'ils n'ont pas vu où leur enthousiasme, s'il était suivi, allait conduire.
Alors, on revient à la question initiale de la technique, d'un certain point de vue. Et ce qui se passe, on est dans la première, dans les, disons, 10 premières années du 20e siècle, du siècle passé, comme on dit maintenant, dans un certain enthousiasme pour la technique. Les trains, les avions, les voitures, tout ça va vite, tout ça est fascinant, tout ça est nouveau. Et ce qui se passe pendant la guerre de 14, c'est la prise de conscience par un certain nombre d'écrivains, de poètes, que cette technique qui semblait quelque chose d'extrêmement incarner la vie, d'un certain point de vue. La vitesse était la vie, c'était pas été pensé comme ça, il suffit de lire Sandrard, par exemple. Eh bien, pendant la guerre de 14, cette pensée s'effondre, c'est-à-dire que la machine devient machine à tuer, usine à tuer, mobilisation générale, où l'homme est pris dans la vitesse des bombes, si je puis dire, dans le bruit des bombes. Et à ce moment-là, le rapport à la technique change complètement. Et on le sent bien, par exemple, chez un certain nombre d'écrivains ou de poètes qui vont avoir une vision extrêmement critique à ce moment-là de ce qu'est la technique, de ce qu'elle est devenue, parce qu'elle est devenue vision du monde, et vision du monde à peu près effrayante, je dois dire. Et quand on vit dans les tranchées un certain temps, la machine des technique qui entoure tue complètement la pensée. On est tué dans sa pensée même. Et je crois que ça a été vécu. C'est pour ça qu'il faut lire les poètes qui parlent de la guerre de 14 après, parce qu'ils en disent des choses extrêmement intéressantes sur le changement de monde qui apparaît là. Ils n'étaient pas contre la technique, après ils deviennent très inquiets de ce qu'elle est. Et ils n'ont peut-être pas tort, parce que l'industrialisation de la guerre, c'est aussi l'industrialisation le fordisme, toutes les chaînes qui se construisent. Il y a une corrélation entre tout ça. Il y a une vision de la technique qui, a priori, n'était ce qu'elle était et qui est devenue le sens du monde et de la nouvelle construction du XXe siècle.
Oui, vous avez fait une allusion aux tranchées, à la vie dans les tranchées. J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, dans une émission de radio, je ne sais plus laquelle, une historienne tenir un propos que j'ai trouvé scandaleux, extrêmement choquant, disant les élèves à qui on enseigne la guerre de 14 ne s'intéressent pas aux considérations géopolitiques, mais à l'anecdotique, la vie dans les tranchées. Alors je trouve que qualifier d'anecdotique la vie dans les tranchées pour la guerre de 14, ça ressemble beaucoup aux détails qui a eu son heure de célébrité.
Oui, là, il y a la géostratégie et puis il y a la vie des hommes. Moi, j'aurais une tendance à m'attacher plus à la vie des hommes.
Moi aussi.
Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire dans ce cas-là. Et j'aimerais mieux qu'elle soit meilleure, cette vie des hommes.
Alors, l'homme, précisément, au sortir de la guerre de 14, qu'est-il devenu ? Car dans votre livre aussi, vous parlez du thème que l'on rencontre chez certains, comme Dada ou Sandrard, du thème de l'homme nouveau, qui vous inquiète.
Alors effectivement, l'homme nouveau se constitue, il se constitue à partir de la technique, dans un certain mélange, si je puis dire, de technique. Alors là, c'est une vision du monde, l'homme nouveau, ça on ne peut pas, c'est incontestable, un certain mélange de vitalisme et de technique qui crée une dynamique de l'homme nouveau qui est quelque chose d'extrêmement, qui va devenir extrêmement violent. C'est-à-dire que l'homme va être renouvelé par la technique comme dans un processus darwinien multiplié. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de l'homme qui devient à moitié machine, qui est électrifié, apparaît dans un certain nombre de textes et il est non pas simplement un rêve, mais comme une possibilité à venir d'un homme et comme une fin de l'homme. Et ça, c'est très inquiétant. Et donc, tout l'univers du XXe siècle, de l'entre-deux-guerres, se constitue autour d'une technicisation architecturale et de la vie qui permet la mise en place de cet homme nouveau qu'on va voir, disons, apparaître dans beaucoup de pays. Je ne préciserai pas les pays. Mais c'est une idéologie toujours inquiétante, l'homme nouveau. Mais celle-là en particulier, parce qu'elle s'arrime à une vision du monde techniciste.
Je résume cette inquiétude à une anecdote que je dis souvent. J'avais vu un jour sur la vitre d'une voiture une petite affichette. Attention, attention, toucher à ma voiture, c'est toucher à ma femme. Cette équivalence entre sa femme et sa voiture est inquiétante.
Oui, mais c'est même pas une équivalence. Il y a une préférence nette pour la voiture.
Bon, mais alors,
il faut être sérieux.
Nous venons de parler des peintres et de poètes, et j'aimerais que vous citez souvent Marinetti, souvent et largement Marinetti et ses manifestes ou ses textes. Alors j'aimerais que vous nous disiez deux mots, qui seront des mots de conclusion, sur la grande exposition qui se tient actuellement au Centre Georges Pompidou, à Beaubourg, sur les futuristes à Paris.
Oui, alors il y a une belle exposition, elle est belle par les tableaux qui y sont exposés, puisque c'est une exposition centrée sur l'année 1912, avec les premières expositions des futuristes à Paris. Je ne peux que conseiller d'aller la voir. Je regrette cependant que l'on perde un peu ce qui fait le sens profond des futuristes. C'est d'abord un mouvement littéraire plutôt qu'un mouvement pictural. Ils ont écrit des manifestes à ne plus savoir que faire, et en particulier Marinetti a écrit un manifeste qui est présenté mais qu'on ne peut pas lire, qu'on n'est pas en position de lire, et qui indique beaucoup de choses. C'est-à-dire que je crois que le futurisme, au-delà des tableaux qui sont présentés, c'est aussi un mouvement politique qui est le symptôme de ce qui va advenir. C'est-à-dire, quand on parle des beautés de la guerre, on est en 1909, on voit ce qui va se passer quelques années plus tard. C'est-à-dire que là, c'est une exaltation de la technique, ce dont je parlais tout à l'heure, qui transforme et qui construit l'homme nouveau. Alors, on peut regretter de ne pas voir ça assez dans cette exposition, mais il faut malgré tout la voir pour l'ensemble des tableaux présentés.
Michel Blais, je vous remercie. Vous avez dit beaucoup de choses en si peu de minutes. Je rappelle que le dernier numéro des Cahiers rationalistes est paru très récemment avec un article assez difficile, mais extrêmement intéressant, même pour quelqu'un qui ne connaît rien aux mathématiques, sur le symbolisme de l'écriture mathématique. Il y a aussi une conférence de notre présidente Hélène Langevin, une intervention à la salle Japy sur l'utilisation des fonds privés et des fonds publics pour la recherche. Le numéro 168 de Raison Présente, qui vient de paraître également, reproduit les actes du colloque de l'Union rationaliste consacré à science et laïcité en 2008. Enfin, je rappelle que vous avez la possibilité de réécouter pendant une semaine cette émission sur le site de l'Union rationaliste. Je vous dis au mois prochain et merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à Michel Mestre et Brigitte Mazire qui nous ont aidés à réaliser cette émission.